Vous nous avez parlé des cinq reflets de la substance correspondant aux cinq parties de la philosophie. Peut-on saisir d'eux-mêmes cinq reflets de l'être en acte? Sont-ils un autre regard que les cinq modes de l'être en acte? N'est-ce pas cinq modalités de la cause finale? Je vais très rapidement répondre à ça, sans m'étendre, puisque c'est du côté de la philosophie de l'acte. C'est sûr que chaque connaissance plus profonde que j'ai de ce qui est en tant qu'être a une répercussion sur toutes les autres modalités de l'être. Je vais faire le petit tableau et je crois que vous verrez comme ça. On étudie d'abord l'être en devenir. C'est toujours avec le chemin d'existence. Donc, c'est toujours l'être dans sa modalité particulière. La modalité de l'activité réalisatrice. Selon dans ce qui mue est présente dans toutes les réalités, dans toutes mes activités humaines. Forcément. Puisque ce qui devient est. Mais l'être se donne à moi dans telle modalité. Donc, il y a une répercussion, si j'ose dire, un rayonnement de cette précision que je fais dans l'être, dans ces diverses modalités. Je vois, ça, on peut le comprendre assez facilement. Donc, quand j'atteins après, non plus Lucia, mais l'être en acte, distinct de l'être en puissance, cet être en acte, il est présent dans ce qui se meut, dans ce qui est mu, dans les réalisations, et ainsi de suite. Alors, je peux me poser la question. Comment je découvre l'être en acte dans ce qui se meut? C'est-à-dire dans le vivant. Alors, j'ai, pour ceux qui ont fait la philosophie et la métaphysique de l'être en acte, savent qu'il y a entelekeia et energeia. Energeia, c'est l'opération par laquelle j'atteins le bien. Je suis en acte quand je suis lié à ma fin. Quand je suis lié à ma fin, opération vitale, donc je suis en acte. Donc, l'acte du se movere, c'est l'opération vitale qui atteint la fin. Je regarde toujours ça par rapport à l'homme. Comment j'atteins ma fin? Je l'atteins de deux manières, par la vérité et par l'amour. L'ami qui est mon bien. La substance est cause de l'être. Ah, rappelez-vous que tout principe n'est pas cause, mais toute cause est principe. Alors, quelle différence faut-il faire entre le principe et la cause? Faut d'abord se rappeler ça, hein, pour que ce soit bien, bien en acte dans votre esprit. pensée chez les théologiens. Saint Thomas n'hésite pas de dire que la négation à l'égard de Dieu parmi les attributs est plus certaine que l'affirmation. Quand je dis Dieu n'est pas un être en devenir, c'est une certitude absolue. Quand je dis que Dieu est bon, vous comprenez que c'est analogique. Or, l'analogie implique toujours quelque chose qui n'est pas d'une précision absolue, puisque c'est second. Tandis que quand je dis Dieu n'est pas dans le devenir, Dieu n'implique pas de potentialité, c'est absolu. Et donc la négation par rapport à Dieu a une certitude qui va plus loin que l'affirmation. C'est radical. D'où, vous voyez bien, si je laïcise ce qui est vrai par rapport à Dieu, je le dirais par rapport à la créature. Vous voyez, dans les corrections fraternelles, la négation est antérieure. Il est bien évident que tu n'es pas un voleur. Tu es peut-être bon. Il est bien évident que tu n'es pas un, que tu n'as pas tel ou tel vice. Peut-être telle vertu. Vous voyez ? La négation, c'est le bulldozer. C'est une efficacité prodigieuse. Il faut bien comprendre ça, parce que ça, c'est le signe de la modernité. Et vous transposez ça au point de vue affectif. Vous avez l'amour et la haine. La haine présuppose l'amour pour les anciens et pour les modernes. La haine est antérieure à l'amour. Subjectif apparaît avant le point de vue affirmatif, la haine sera première. La haine est plus subjective que l'amour. Votre subjectivité est manifestée beaucoup plus fortement dans la haine que quand vous dites j'aime, je t'aime, je te hais. Alors ça, c'est tout à fait caractéristique. Sur l'individu. Et en crachant sur lui, vous dominez. Quand vous niez, vous ne vous engagez pas. Et donc vous affirmez toute votre domination, je ne dis pas votre autorité. La négation montre le pouvoir. L'affirmation montre l'autorité. C'est curieux, mais tout ça se tient. compassion vis-à-vis de ce qui est. Au contraire, si je veux dépasser le principe de nos contradictions, j'affirme que l'intelligence se donne à elle-même sa propre détermination. Mais donc il y a là quelque chose d'extrêmement important. Le principe de nos contradictions n'implique aucune causalité. Il exprime un ordre. La primauté de l'affirmation sur la négation. Simplement ça. Tandis que si vous inversez et que vous dites primauté de la négation sur l'affirmation, à ce moment-là, vous affirmez le primat de la subjectivité. Donc, comprenons que le principe de nos contradictions n'implique aucune causalité. C'est uniquement dans l'ordre du vécu intense, du vécu intellectuel. Je suis donc dans l'ordre de l'intentionnalité. La cause, à la différence d'un principe, affirme plus tandis que pour nous, nous pouvons faire la distinction entre l'intentionnalité et la réalité. C'est pour ça que le principe de non-contradiction est une loi de mon intelligence. C'est la loi fondamentale de mon intelligence par rapport à tout ce que je connais, tout le vécu. Et ce qui est très curieux, c'est que dans la philosophie hegelienne, Hegel dépasse le principe de non-contradiction. Pourquoi? Parce qu'il regarde le point de vue de la vie avant le point de vue de l'être. Alors, au point de vue de la vie, c'est l'assimilation. Et donc, au point de vue de la vie, il peut y avoir un dépassement de la contradiction. Parce que mon intelligence affirme, mon intelligence nie. Elle est source des deux. Si elle est source des deux, elle est antérieure. Donc elle est au-delà de la contradiction. Tandis que si je regarde l'intelligence du côté objectif, ceci n'est pas. Je ne peux pas les unir, puisque ceci n'est pas rejette complètement ceci. Donc si je regarde mon intelligence en tant qu'intelligence, je regarde l'intelligence dans sa détermination fondamentale, lors de l'intelligence avec l'être. Si je regarde au contraire l'intelligence dans sa capacité de vie, puissance vitale, je regarde que sa vitalité s'exprime dans l'affirmation et la négation. Et si, sur l'intelligence, je regarde sa puissance d'affirmer et de nier, je dirais que l'intelligence, au point de vue de sa vie, est au-dessus de la contradiction. Oui. Alors ça fait comprendre Aristote et Hegel, ce qui est intéressant. Aristote regarde l'objectivité avant de l'intelligence, et qu'elle regarde la vie de l'intelligence. Et la vie de l'intelligence regarde ma manière de vivre. C'est une modalité de l'être, c'est pas l'être. Puisque la vie n'est qu'une modalité de l'être. Vous voyez, c'est ça qui fait fondamentalement la différence entre une philosophie Aristote, philosophie Hegel. C'est un très beau dialogue entre les deux. Et fondamentalement, c'est la vie qui est avant l'être, ou c'est l'être qui est avant la vie. C'est une question d'ordre, c'est ça qui est très curieux. C'est un ordre tout à fait différent. Alors, ceci, c'est pour vous montrer qu'après avoir découvert l'ousia comme principe, je me pose la question, l'ousia est-elle